Bonjour à toutes et à tous, Catherine Mann au micro pour vous proposer de nous mettre à l'écoute des psaumes de la Bible. En continuant de nous intéresser aux psaumes choisis dans le calendrier des messes dominicales et en parcourant successivement les trois années du cycle liturgique des dimanches, nous regardons comment les lectures de la messe éclairent ce choix de psaumes ou les quelques versets qui en ont été extraits. Nous avons déjà parcouru les années A et B. Et notre itinéraire nous amène aujourd'hui au sixième dimanche de Pâques de l'année C. Et à son psaume, le psaume 67 ou 66 dans la numérotation latine. Le psaume 67 est un petit psaume de 8 versets, dont deux versets identiques, les versets 4 et 6, forment en fait un refrain. Et ce refrain est en général celui qui est choisi comme antienne pour le chant du psaume au cours de la messe. Il y a encore quelques années, ce psaume était quand même amputé de quelques morceaux, de quelques éléments. Mais de nos jours, la liturgie nous offre le psaume en entier, ce qui est bien agréable car c'est un beau psaume très cohérent et bien construit. Donc je vous propose d'emblée de l'écouter dans la version de Michel Wackenheim.
Sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice.
Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations.
Que les peuples Dieu te rendent grâce.
Donner son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit.
Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore.
Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Le psaume 67, tel que nous venons de l'entendre, donc chanté pour la messe du sixième dimanche de Pâques de l'année C, n'est pas exactement tel qu'il est agencé dans le psautier. En effet, la construction originelle, si je peux dire, est une structure concentrique, c'est-à-dire qu'il commence par une bénédiction, ensuite vient le refrain, puis le verset central, c'est-à-dire le verset 5, puis la reprise du refrain, et enfin, à nouveau, une bénédiction. Donc, cette forme de construction concentrique est là, en fait, pour mettre en évidence le verset central et attirer notre attention sur son contenu. Alors, que nous dit ce verset 5 ? Je vous le lis, il s'adresse donc à Dieu. « Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. » Sur la terre, tu conduis les nations. Donc, nous pouvons remarquer qu'il s'agit ici de nations. C'est ce que Israël appelle tous les peuples autres qu'Israël. Ainsi, le message du psaume est clair. Il nous dit que le Dieu d'Israël est aussi le Dieu universel qui guide et conduit tous les peuples et toutes les nations vers un même but de salut. C'est pourquoi le psalmiste les invite tous à la louange de joie. La foi d'Israël concerne donc toute l'humanité, car tous sont appelés à connaître Dieu et à le reconnaître à l'œuvre dans le monde. Alors, c'est bien sûr aussi le message chrétien que d'annoncer partout l'universalité du Dieu unique, la catholicité, car malgré les différences, la foi chrétienne vient en continuité de la foi du judaïsme. Et c'est ce qui justifie que nous ayons en commun la prière des psaumes. Alors je vous propose maintenant d'entendre le psaume 66-67 dans la numérotation hébraïque, tel qu'il est écrit dans le psautier, donc chanté par les moines de l'abbaye de Timaduc.
S'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.
À toi, Dieu, la louange des peuples, une anime la louange des peuples.
Que les nations chantent avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations.
À toi, Dieu, la louange des peuples, une anime la louange des peuples.
La terre a donné son
l'universalité n'est pas le seul message du psaume 67, bien sûr. Il y a aussi l'évocation de la bénédiction divine qui commence et termine ce psaume. Nous voyons la demande de bénédiction au verset 2, je vous lis. « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. » Alors, que peut-on dire de cette bénédiction qui est attendue ? En fait, nous avons une réponse qui se trouve donc au verset 7, qui correspond à la réponse de Dieu à la demande du début du psaume. Il dit ceci, « La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Donc la bénédiction dans la tradition biblique, le premier effet de cette bénédiction, c'est la fécondité, la fertilité dans tout ce qui est le don de la vie. D'abord au sens concret, bien sûr, hein, car sans les fruits de la terre, l'humanité ne pourrait bien sûr pas survivre. Mais la tradition chrétienne a apporté une compréhension nouvelle de ce verset. Les pères de l'Église l'ont interprété en voyant dans le fruit le symbole du Christ, fruit de la tradition d'Israël, qui est elle-même tout entière récapitulée en Marie, mère de Jésus. Marie est la terre fertile capable d'engendrer le Fils de Dieu. Et cet unique fruit produit par la bénédiction de Dieu devient ensuite Eucharistie, donc une nourriture universelle offerte au monde. Alors, c'est surtout cet aspect qu'en tant que chrétien, nous pouvons chanter en rendant grâce à Dieu dans le psaume 67. Et nous allons à nouveau l'entendre, cette fois chanter pour la messe du sixième dimanche de Pâques de l'année C, dans la version de Jean-Paul Lécaud.
Et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre. Tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière la donne.
Voyons à présent comment les lectures du sixième dimanche de Pâques de l'année C peuvent s'articuler avec le psaume 67. D'abord la première lecture, qui est un long passage du livre des Actes des Apôtres, les versets 1 et 2 et 22-29. C'est un des textes les plus importants des Actes, parce qu'il pose la question de la juste relation entre le judaïsme et le christianisme naissant. Il y est question du rite de l'alliance juive de la circoncision. Je vous lis les versets 1 et 2. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Voilà, donc le conflit surgit, surtout parce qu'un juif de stricte orthodoxie, comme l'est saint Paul, a pris ses distances vis-à-vis de la loi de Moïse. Lui n'a pas de problème avec les païens qu'il est venu évangéliser. Il n'a pas du tout l'idée de les convertir d'abord au judaïsme avant de leur proposer de devenir chrétiens. Saint Paul est pragmatique et réaliste. Ce qui compte pour lui, c'est l'adhésion rapide au Christ, et la soumission préalable à la loi juive lui paraît donc un détour tout à fait inutile. Il le dira dans ses épîtres, hein, la circoncision de toute façon ne se suffit pas à elle-même, parce qu'elle suppose ensuite la mise en application de toute la loi. Et dans sa lettre aux Romains, Paul ira jusqu'à dire que les Juifs eux-mêmes n'arrivent pas à mettre véritablement la loi en pratique. Donc, ni la circoncision ni l'adhésion au judaïsme ne lui semble utile pour accéder au salut en Jésus-Christ. Mais beaucoup de Juifs, qui pourtant par ailleurs sont convaincus par le message évangélique, restent encore persuadés du contraire. Donc un conflit qui va devoir remonter jusqu'à Jérusalem et au collège des apôtres pour trouver sa solution. Avant de voir cela, écoutons de nouveau le psaume 67, mais dans une version traditionnelle chantée par un chœur anglais.
Amen.
la suite dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 et 29. La réaction des apôtres et des anciens de Jérusalem, ce qu'ils diront après en avoir débattu. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et de vous abstenir des unions illégitimes. En évitant cela, vous agirez bien. Ainsi, pour les chrétiens, on décidera que la circoncision ne s'imposera pas. Mais cela n'empêche pas que quelques règles de vie paraissent quand même importantes aux apôtres, sans doute un compromis nécessaire à l'époque pour garder l'unité entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens venus du paganisme. Mais ceci dit, quel rapport pouvons-nous faire entre ce texte et le psaume 67 ? Alors, il me semble que le point commun assez évident est la nécessité de transmettre un message universel. Pour que le Dieu unique soit reconnu et célébré dans toute l'humanité, il n'est pas indispensable d'imposer à tous des comportements standardisés. Il est sûrement plus urgent de faire comprendre que pour Dieu, l'unité et la diversité ne sont pas incompatibles, que c'est un beau programme de vie que d'accepter l'autre dans sa différence et d'aimer même ceux qui ne nous ressemblent pas. L'universalité ne demande pas l'uniformité. Écoutons donc de nouveau le psaume 67, chanté pour la messe du sixième dimanche de Pâques de l'année C, cette fois la version d'André Gouze.
Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous.
Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie. Car tu gouvernes le monde avec justice.
Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse. Que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Avançons maintenant à la deuxième lecture du sixième dimanche de Pâques de l'année C et à son lien avec le psaume 67. Il s'agit ici d'une lecture de la fin du livre de l'Apocalypse, selon saint Jean, chapitre 21, un mélange de versets. Lisons ceux qui ont le plus d'intérêt pour notre propos, donc les versets 10 à 14. « Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'esprit sur une haute et grande montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Elle resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin, elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant le nom des 12 apôtres de l'agneau. Voilà, le rapport entre ce texte et le psaume 67 ne saute pas aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf peut-être si l'on voit dans le symbolisme des quatre points cardinaux, des 12 portes et des 12 fondations, si on y voit une façon de dire la totalité universelle. Alors, la Jérusalem céleste peut se comprendre comme l'accomplissement de l'espérance du psaume 67. C'est la terre tout entière, la totalité des peuples transfigurés par la gloire de Dieu, qui rendent grâce et chantent la joie d'un salut définitif. Alors, illustrons ce propos en écoutant une petite méditation sur le psaume 67 que nous offrent Théo Mertens et Léandre Boldrini.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, que Dieu nous prenne en grâce.
Que Dieu nous prenne en grâce. La faveur que tu accordes au peuple de la terre est bien celle de ta présence parmi nous, les hommes. Celle d'une alliance offerte depuis les commencements, d'une histoire écrite à deux voix, d'une aventure aussi belle et aussi risquée que l'amour. La bénédiction dont tu nous enveloppes, nous les hommes, est bien celle qui convie certains depuis les commencements à se révéler pour qu'il te révèle et à venir parler jusqu'au lieu de nos incroyances. La récolte que tu offres, saison après saison, à la terre entière et à nous, les hommes, est bien celle de la paix levée, puis posée au cœur des peuples. Source d'une joie possible et délicate entre les nations qui, sans le savoir encore, ou sans le savoir plus, se gouvernent et s'apprécie selon ta justice. Et c'est alors nous, les hommes, qui te bénissons pour avoir découvert et émerveillé cet héritage vivant d'éternité.
Voyons enfin l'évangile du sixième dimanche de Pâques de l'année C et son éclairage sur le psaume 67. Le texte est celui de l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29, et ce sont des paroles de Jésus qui résonnent comme un testament spirituel, puisqu'elles sont prononcées dans les dernières heures de sa vie, juste avant la Passion. Je vous en lis simplement le début, les versets 22 à 26. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà, ces paroles de Jésus, donc le passage de l'évangile de Jean, nous place en face du grand mystère de l'unité de Dieu en trois personnes distinctes. Il y a le Père, l'Esprit Saint et Jésus, le Christ. Cette seule constatation peut nous ramener à la remarque que nous faisions à propos de la lecture de l'Apocalypse. L'unité et la diversité ne sont pas contradictoires. C'est au contraire leur complémentarité qui permet que tous les hommes soient sauvés. Chacun personnellement et dans l'union de tous, mais sans perdre les spécificités individuelles. Nous voyons dans ce texte de Saint Jean que Dieu le Père viendra en l'homme par l'amour, que Dieu le Fils est présent pour les hommes par sa parole, que l'Esprit Saint est pour chacun de nous un enseignant, défenseur de notre foi. Mais dans le Fils et l'Esprit, c'est le Père, le Dieu unique, qui se manifeste. Alors, il n'y a malheureusement rien dans ce texte qui renvoie directement au psaume 67. Mais c'est à nous, simplement, de faire que notre relation vivante au Dieu unique en trois personnes devienne un champ d'action de grâce aux dimensions universelles, comme le psaume 67 nous y invite. Et maintenant, pour terminer notre émission, je vous propose d'écouter ce psaume 67 dans la version de Jan Sweling pour l'Église réformée du XVIe siècle. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Dieu.